Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle et deuxième saison d'Amour. J'ai fait une pause de quelques mois qui m'était bien nécessaire, mais je suis de retour avec un épisode, un dimanche sur deux. Pour ce premier épisode, j'ai rencontré Vanessa, 44 ans, qui vit dans le sud et travaille dans le milieu de l'édition. Elle nous parle de sa vie amoureuse de jeune adulte tout à fait dans les clous, qui l'a amenée à un mariage très traditionnel, de son syndrome de la bonne élève, de grandir ensemble et de former une équipe avec son ex-mari, de son non-désir puis de son désir de grossesse et d'enfant. Elle raconte les changements pro qui affectent le couple, le décalage en devenant parent et le cadeau que son ex-mari lui a fait en la quittant. Elle parle de cette étape de sa vie, du soutien et de l'importance de ses amis et de sa famille, de l'amour qu'elle a pour sa fille, de savoir dire non pour se dire oui à soi, de reprendre confiance, de relations réparatrices et de coups de foudre. Merci beaucoup à Vanessa pour son témoignage et merci à vous d'être toujours là pour cette nouvelle saison. J'espère que cet épisode vous plaira. Si vous souhaitez participer, comme d'hab, vous pouvez m'envoyer un mail avec une courte description à lea.bordier@gmail.com avec amour en objet. Vous pouvez aussi mettre des petites étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify, ça aide au référencement du podcast, et me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute.
C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas un long fleuve tranquille en fait.
Bien sûr,
c'est ouais, ça, ouais. C'est pas un long fleuve tranquille. Cool. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, mais au final, l'important c'est de tracer c'est le chemin quoi.
Ouais.
Et ce qui est rigolo, c'est que ton message, en fait, il est arrivé. Je scrollais sur Insta et tu sais, il y a des archives là, les souvenirs machin. C'est un souvenir d'il y a 8 ans et moi j'ai eu un changement de vie radical il y a 8 ans et je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais dire à la moi qui est sur cette photo et à qui va arriver une putain de grosse tuile dans la tronche. Et tu vois, j'ai encore bien le souvenir de comment ça me paraissait insurmontable.
Ouais.
Et comment, en fait, tu sais, tout le monde te dit ça va aller. Puis tu dis, non, ça va pas aller, j'ai la tête dans le seau, non, ça va pas aller, non. Et en fait, si.
Ça va aller.
Ça va aller.
Alors, je suis désolée, c'est un peu le zbeul.
Non, dis-moi.
J'ai pas du tout démêlé. J'ai un problème avec les nœuds. Tu sais, je suis phobique des nœuds, là.
C'est
et là, j'ai vu ça. Je me suis dit, genre, c'est pas grave, on laisse comme ça, ça fonctionne. Je le rapproche juste un petit peu, parce qu'il faut parler assez proche.
Tu veux que je baisse le truc c'est bon.
Est-ce que tu peux me parler pour voir comment ça va aujourd'hui avec ce temps de merde?
Ça va très bien. Ah. Et il y a un temps de merde, moins de merde qu'hier.
C'est vrai. Et puis, c'est les vacances pour toi.
Et puis, c'est les vacances pour moi.
Une semaine?
Un peu plus.
Un peu plus, trop bien. Et c'est la fête. Hein. Écoute, ça m'a l'air bien. Est-ce que tu as des questions? Tu vois, c'est très spontané. Hein. Il n'y a pas de piège. Tout va bien se passer, je pense.
On va essayer.
Je suis plutôt sympa. Voilà. Je te le remonte juste un petit peu.
Ouais.
Et c'est parti, mon kiki.
Allez, go.
Et le track, parce que je reprends les enregistrements d'amour. Donc, comme je te disais, j'ai fait une pause, j'en avais bien besoin. C'était un sujet que je ne voulais pas spécialement aborder, vu ma vie personnelle. Mais là, je suis repartie et surtout, donc je suis avec Vanessa aujourd'hui. Bonjour, Vanessa.
Bonjour, Léa.
Tu m'as écrit, parce que moi, j'ai fait un petit post sur Insta pour dire salut, je reprends les épisodes d'amour. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des histoires un peu joyeuses à me raconter? Et tu m'as écrit et j'étais trop contente et j'ai reçu beaucoup de messages. Et comme tu me disais un peu en off, c'est parce que j'ai précisé joyeuse certainement que tu as eu envie de m'écrire.
Ouais, parce que moi aussi, j'étais dans une humeur où j'avais d'humeur joyeuse ou en tout cas l'envie de faire un gros câlin à celle qui pourrait être un peu dans le bad, dans le noir, la tête dans le seau, on disait.
Ouais.
À qui tout le monde dit de manière très bienveillante, ça va aller. Et dire que c'est vrai, ça va finir par aller.
J'ai reçu d'autres messages et tu m'as écrit hyper rapidement en fait. J'ai sorti le petit réel là et puis tu m'as écrit dans la journée.
Je pense que si j'avais pas écrit tout de suite, j'aurais pas écrit du tout.
C'est ça, c'est ce qu'on me dit souvent. Et t'as très bien fait. Et du coup, je me suis vite empressée de répondre à chacune.
C'est vrai que ça allait vite.
D'ailleurs, il y en a qui m'ont pas répondu à nouveau. Donc je pense qu'elles ont été surprises, tu sais, que je réponde. Et donc, je voulais une histoire joyeuse, parce que le monde est un peu fou en ce moment. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de femmes qui vivent des histoires très compliquées et des problématiques un peu particulières. Et je pense que pour relancer la saison, on avait bien besoin d'un...
Oula, il faut que je sois à la hauteur de la joie.
Justement, j'ai pas envie de te mettre cette pression, mais je sais que ce sera très bien. Pour commencer, Vanessa, est-ce que tu peux me dire un petit peu, me parler de toi, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, d'où tu viens?
J'ai 44 ans, je travaille dans l'édition. Ouais. La partie commerciale de l'édition, celle qui fait moins rêver que celle du texte, mais ouais, j'ai une passion pour le livre depuis toujours, sous toutes ses formes. Que te dire d'autre ? Je suis la maman d'une adolescente qui a 13 ans,
okay.
Que j'élève toute seule.
Okay.
Je ne sais pas quoi te dire d'autre.
Et tu viens du Sud.
Là, je viens du Sud, ouais. Je crois que je n'ai pas trop d'accent marqué, mais non, oui, je viens du Sud. Ouais. Je suis un produit du Sud-Est.
Tu trouves que j'ai un accent, moi, d'ici ?
Non, non, non plus. T'as pas trop d'accent. À force, quand on bouge, on doit gommer nos accents.
Et puis moi, je sais pas ce que c'est l'accent parisien. Enfin, c'est des expressions, tu vois, des trucs. Mais
il existe.
Je sais pas, on me dit ça
parfois.
C'est
la gouaille des chauffeurs de taxi qu'on imagine. Il faut que tu jures pour savoir si t'as l'accent.
Je sais pas, mais ça m'étonne toujours.
L'accent du Sud revient quand
t'es énervée.
Ouais, quand je jure.
Bon, écoute, j'espère qu'on va pas en arriver
là. Ça devrait pas se produire là, non.
On est là pour parler d'amour aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler de ton histoire d'amour, de rapport à l'amour, de ce que tu veux? Là, je suis en freestyle. De toute façon, okay. On reprend la saison.
Je me suis jamais définie comme une grande romantique. Je me crois pas très romantique. Et en réalité, quand je me pose vraiment et que je regarde un peu le chemin parcouru, ma vision de l'amour, je pense que quand même... comme souvent quand on aime la littérature, etc., j'ai quand même une vision assez absolue du sentiment amoureux et de ce qu'est l'amour. Après, en vieillissant, j'ai élargi ma définition de l'amour.
Okay.
Et je trouve que l'amour amoureux, c'est vraiment une infime partie, en fait, de l'amour et des histoires d'amour qu'on traverse au fil de l'existence, quoi. J'ai longtemps pensé que j'étais un peu une handicapée de l'amour.
Pourquoi ?
Sans doute parce que, justement, j'ai une vision un peu très haute, une très haute estime de l'amour.
Et ça veut dire quoi pour toi?
J'avais l'impression que j'aimais jamais assez pleinement. Ah ouais ? Tu vois, que c'était jamais assez, assez grand, que j'arrivais jamais à vraiment... comme quand tu n'arrives pas à respirer, tu sais, à gonfler complètement tes poumons. J'avais l'impression que j'avais toujours un début, mais est-ce que c'était vraiment ça, l'amour ou pas l'amour? Je suis tombée amoureuse adolescente. Cette histoire d'amour qu'on est nombreux, nombreuses à avoir la chance de vivre, où tu as l'impression qu'un monde nouveau, une dimension nouvelle s'ouvre. Donc, j'ai eu la chance de connaître ça, quasiment à l'âge qu'a ma fille, d'ailleurs. Du coup, je me dis que je vais peut-être être la spectatrice de ça. Ouais. Et puis après, les histoires suivantes, elles étaient... Je pense que j'ai vraiment idéalisé ce premier amour-là. C'était très lyrique. Et puis, comme je disais, je lisais beaucoup. Donc, voilà, il fallait que ce soit... C'était très grand. Et je pense que je l'ai vraiment idéalisé. Donc, les histoires d'amour qui sont venues après étaient assez chouettes, mais... Pas vraiment. C'était dans les clous, en fait. Ouais. Et ma vie amoureuse de jeune adulte a été vraiment dans les clous.
Et ça veut dire quoi, dans les clous ?
Dans les clous, ça veut dire que j'ai le sentiment maintenant, a posteriori, d'avoir suivi un chemin que je n'avais pas vraiment choisi, mais qui était un chemin qui était assez évident, facile. J'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Je trouve ça fou aujourd'hui de m'être mariée, mais qui est devenu mon mari et le père de ma fille quand j'étais au lycée. On avait des caractères qui s'accordaient hyper bien. Moi, j'ai un caractère qui peut être assez fort et il me laissait de la place. Et on s'accordait vraiment bien. Et je pense qu'on avait tous les deux des objectifs de vie qui collaient. En tant que grands ados, jeunes adultes. Et donc, on s'est engouffrés dans une voie qui, a posteriori, n'était peut-être pas tout à fait celle qui nous correspondait vraiment.
Ok.
Mais en revanche, je pense que ça correspondait complètement à la vision qu'on se faisait d'être adulte et de la vie d'adulte.
Et là, tu avais quel âge?
Et j'avais... je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Il en avait 18. Et on s'est mariés quand j'en avais 23 et lui 24.
Et ça, c'était une envie profonde que tu avais de te marier?
Pas du tout.
T'as réfléchi pour dire, mais, en fait, non.
Mais trop pas, en fait. Non, en fait, c'est pas la réflexion de est-ce que j'en avais envie, parce que je sais très bien que, en fait, pas tellement. En revanche, ce dont j'avais envie, c'est que ma grand-mère soit là. Okay. J'avais une relation très, très forte à ma grand-mère qui commençait à être vraiment âgée. Et j'avais très envie qu'elle soit là. Okay. J'avais en fait, c'était une sorte de cadeau que j'avais l'impression de me faire à moi, en fait. Hein. J'avais envie que les gens que j'aime et qui étaient près de moi soient là pour ça, en fait. Une sorte de grande fête. Je ne sais pas tellement, en fait, s'il y a d'autres équivalents de grosses fêtes où tu regroupes, tu vois, tes amis,
la famille.
Ouais, voilà, ta famille, dans un truc un peu codifié comme ça, où tu célèbres.
Oui.
En fait, tu célèbres l'amour, en tout cas ce modèle-là d'amour, quoi.
Et c'était un mariage plutôt traditionnel.
Complètement. C'était vraiment parti. En fait, c'est parti de. Je préparais la grègue à ce moment-là.
Ok.
Et quand tu passes la grègue ou le capes, tu peux être envoyé a priori n'importe où, surtout dans le 93. j'avais annoncé que. Enfin, on avait décidé qu'on allait se paxer.
Okay.
Donc, j'ai annoncé au cours d'un repas de famille, ah tiens, on va se paxer. Et là, tout le monde m'a regardé avec des yeux vraiment ronds. Mais pourquoi se paxer? Vous avez qu'à vous marier.
Ah ouais?
Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, pourquoi?
Et t'aurais pu faire une fête de Pâques et tout, ouais, ça se fait de plus en plus. Mais tu t'es dit, bon.
J'aurais pu, après, c'était il y a plus de 20 ans.
Ouais.
Le Pax, c'était pour le coup, c'était pas du tout l'amour romantique. Hein. Ça répondait au projet de base qui était de pas partir à 800 km de chez moi.
Oui.
Mais en effet, en fait, pourquoi est-ce qu'on se marierait pas? Bah ouais, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on se marierait pas? Et si on se marie, c'est peut-être le moment de se marier là maintenant, parce que tout le monde est là. Et j'ai dit, ok, mais un petit truc, quoi. Le petit truc, ça s'est terminé avec un voile pas possible. On était 130 invités, je crois. Le gros truc. Ouais, le gars qui fait la vidéo.
Ouais, classique.
Ouais, j'ai échappé à la calèche, mais je pense que. Une minute d'inattention, j'avais les colombes et la calèche. Hein. Non, je ne l'ai pas eu, heureusement. Mais voilà. C'est pour ça que je te disais, j'ai l'impression d'avoir vraiment suivi un chemin.
Ouais.
Subir, c'est un peu peu trop fort, mais d'avoir suivi vraiment les clous, quoi.
Ton mari à l'époque du mariage, comment il était, lui? Il était super partant, il était comme toi.
Il était partant, je pense que le modèle lui plaisait bien.
Ouais.
Après, oui, il s'est laissé porter aussi.
Ok.
Et après, moi, je pense que le côté organisation, tout ça, c'était quand même assez rigolo.
Ouais.
Donc, voilà. Il s'est laissé porter.
Donc, tu t'es mariée?
Et moi, je me suis laissée prendre au jeu quand même.
À 23 ans?
Ouais, c'est hyper.
Quand ouais, c'est jeune.
Ah, c'est fou, c'est hyper jeune. Mais déjà, à ce moment-là, hein, c'était hyper jeune. Hein. Autour de moi, mes copains me disaient, mais ah ouais, ok.
Ouais, t'étais une des seules à ce moment-là, à te marier, à être comme ça, en couple.
Ouais, carrément.
Comment tu le vivais?
Assez bien. Des fois, j'avais des moments de doute où je me disais, quand je voyais mes copines ou mes potes mecs enchaîner les relations, je me disais, je passe quand même à côté d'un truc. Tout ça, je l'ai pas, en fait. Mais j'avais autre chose. J'avais vraiment un truc très confortable, équilibré, parce qu'on avait une relation qui était équilibrée. Moi, j'avais déjà des convictions féministes assez fortes et il les respectait. J'avais pas de désir d'enfant et il le respectait. C'est-à-dire que la possibilité de ne pas être père ne lui posait pas de soucis. Ça, c'était, je pense, à ce moment-là, pour moi, hyper important. Oui, que ça va évoluer le fil de l'histoire.
Oui.
Et puis surtout, les copains célibataires, c'était pas forcément du célibat très joyeux.
Ouais.
Et les aventures c'était assez. À la fois, j'avais l'impression de passer un peu à côté de certains trucs. À la fois, on respectait vraiment la liberté de chacun. Moi, je sortais de mon côté, il sortait de son côté. Vraiment, ça, c'était vraiment très équilibré. Donc, j'avais pas l'impression, je passais à côté d'un truc et à la fois, ce à côté de quoi je passais me semblait pas si joyeux que ça.
À l'époque, vous étiez certainement un couple, pas adulé, tu vois, mais...
Exactement.
Okay, suis allée.
Si, tu y allais, t'as raison. Ce qui limitait finalement les risques de... Enfin, ce qui éteignait un peu les doutes. que moi je continue mes études, lui il a commencé à bosser, c'est pas pour ça que moi, enfin tu vois, je bossais à côté, on a emménagé finalement, on a eu notre appart assez vite et puis vraiment les choses fonctionnaient.
Ouais.
On roulait pas sur l'or mais on arrivait à voyager un peu. Voilà, c'était pas, puis on sortait, enfin on n'était pas le couple plan-plan. Ouais, voilà. Donc, on était un peu le modèle, et puis on était le modèle vers lequel les autres tendaient aussi, puisqu'ils étaient dans une quête d'histoire d'amour.
Ouais.
Donc, ouais, il y avait un peu le côté. Après, je pense, je suis pas sûre que beaucoup auraient échangé.
Ouais.
Il y avait quand même, ouais, avait, voilà, c'était, on était quand même en couple.
Comment s'est passée la vie post-mariage?
Alors, on vivait déjà ensemble quand on s'est mariés.
Ouais.
Ça faisait 3 ans qu'on avait emménagé ensemble. Moi, je poursuivais mes études. J'avais des petits jobs à côté, lui bossait. C'était une vie qui roulait. Alors c'est difficile d'essayer de gommer, enfin d'avoir de remettre les lunettes que je pouvais porter à ce moment-là.
C'est-à-dire?
Parce que depuis on s'est séparés et que j'ai un regard, je porte un regard très différent en fait sur ces années-là. Un an après notre mariage, parce que ça, c'est un événement important. Un an après notre mariage, je suis tombée enceinte.
Ouais.
Et je présentais la Greg pour la deuxième fois à ce moment-là. La Greg d'histoire, qui est une Greg assez lourde.
Mmh.
Et puis, moi, je n'avais pas de désir d'enfant, comme je disais tout à l'heure. Et moi, tout de suite, je me suis dit qu'il n'y avait pas la place, en fait, pour cet enfant. Enfin, j'ai pas jamais douté de cette décision-là. Pour lui, il n'y avait aucun doute. La décision, c'est moi qui la prenais.
OK.
Et il m'a complètement soutenue. Il m'a accompagnée le jour de l'interruption de grossesse. C'était par anesthésie générale, donc en ambulatoire, hospitalisation, tout ça. Il a été là, etc. Et ça, ça a été un tournant parce que moi, alors je crois qu'on est nombreuses à avoir cette découverte-là. Le jour de l'IVG, j'ai réalisé que pourtant, je n'avais jamais eu de désir d'enfant, vraiment. Mmh. J'étais persuadée. Ceci dit, enfant, je disais que je ne me marierais pas et que je n'aurais pas d'enfant. Bon, ben, je m'étais déjà mariée.
Mmh.
Et le jour où j'ai avorté, en sortant, la seule conviction que j'avais, en plus de celle d'avoir pris la bonne décision, c'est qu'un jour, je serai enceinte et que j'aurai un bébé et que ce serait un vrai choix, quoi.
Okay.
Voilà. Le désir d'enfant est arrivé à ce moment-là. Ce n'était pas encore le moment, mais je savais que j'aurais un enfant. Et en fait, cet événement-là, ça nous a vraiment soudés très, très fort. On était déjà hyper soudés. En fait, on a vraiment avancé dans notre vie comme ça, hein, vraiment comme un duo, presque comme une entreprise. Enfin, je sais pas, c'est horrible de dire ça. C'est pas très romantique pour le coup. Mais vraiment, c'est-à-dire que chacun de nous deux, oui, c'est ça, c'est une team. Chacun de nous deux a apporté quelque chose de différent à l'équipe.
Surtout quand tu grandis ensemble, c'est quelque chose, quoi.
Ouais.
Tu te découvres à deux, tout seul.
Tu grandis beaucoup à deux. Tu te permets... on n'était pas issus de milieux très favorisés. Et je pense que tous les deux, on avait vraiment une vraie soif d'avancer. Vraiment.
De construire quelque chose ensemble.
Oui. Et on savait qu'à deux, on pouvait y arriver, en fait.
Ouais,
à deux, on pouvait y arriver. Et c'est vrai qu'on a réussi à gravir... Sauf que, donc lui travaillait déjà, alors que moi j'étais encore étudiante.
Ouais.
Et quand j'ai commencé à travailler, lui il avait déjà pas mal avancé d'un point de vue pro. Ce qui fait que ces changements professionnels ont vraiment beaucoup, beaucoup impacté notre vie. Et notamment moi, ma vie professionnelle. Et on déménageait très régulièrement. Et moi, dès que je commençais à monter un petit peu, à m'installer professionnellement, comme lui gagnait un meilleur salaire que moi, j'étais stoppée et je le suivais.
Et tu déménageais, tu changeais de ville, tu le suivais.
Ouais.
Okay. Costaud quand même.
On a déménagé quasiment tous les 3 ans.
Ok.
Donc.
Tout reconstruire aussi pour toi à ce moment-là, quand tu arrives.
Ouais, et puis surtout professionnellement.
Ouais.
Puisque justement, l'année après qui a suivi l'avortement, ça a vraiment été très très fort pour moi ce temps-là. Ça a été vraiment une vraie rupture. Je crois que c'est le moment où je suis devenue adulte, pour de vrai. Et j'ai l'impression que j'ai beaucoup joué à la grande. Ouais. Jusqu'à 24 ans, je suis vraiment devenue grande, en fait. C'est vraiment la première claque.
Ouais, ouais.
Vraiment. On dit que la vie, elle se charge hein, de te mettre des petits coups comme ça. Eh bien, ça, ça en était un.
Est-ce que tu as vu mon documentaire sur
l'avortement ? Évidemment, je l'ai vu. Je l'ai vu, ça a beaucoup résonné. Il y a plein de choses qui sont... Et j'en ai beaucoup parlé autour de moi.
Cool.
Parce que je me suis rendu compte que moi aussi, en fait, je jouais le jeu et j'en parlais très, très peu.
Ouais.
Et
ça t'a permis, du coup, de pouvoir plus en parler en le visionnant ? Moi, c'est des retours
En fait, je me suis dit, mais je n'en parle pas.
Ouais, ouais, ouais.
Je n'en parle pas et à ce moment, quand je l'ai vécu, je me dis, mais pourquoi est-ce que personne n'en parle alors que quand j'en ai parlé à mes amis, par exemple, au moment où je le vivais, et on m'a dit, ah, mais moi aussi.
Oui, c'est ça, de toute façon, dès que tu commences à en parler.
Et tu ne l'as jamais dit, mais est-ce que je suis en train... Enfin, la vague, elle est énorme et on s'est confié des trucs importants, mais ça fait vraiment partie des choses importantes. On ne s'en est jamais parlé. J'ai une tante qui m'a dit, j'ai avorté l'année dernière, tu vois. Ouais. J'avais 24 ans, j'en avais 36. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue, en fait. Ça nous est tout arrivé. C'est quand même hyper important.
Quand tu commences à en parler, oui, d'ailleurs, dans le documentaire, elles en parlent de ça. Tu te rends compte que ça y est, en fait, tu découvres le monde des femmes qui ont avorté. Et en fait,
et c'est un peu comme quand tu es enceinte, où en fait, il y a plein de trucs qu'on t'a jamais dit.
Oui.
Et qu'on te dit à ce moment-là, j'ai dit, ouais, mais genre, peut-être que si je l'avais su avant, j'aurais pas... c'est fou. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que j'en parle, quoi. Même si parce qu'en fait, c'est ça, j'ai le sentiment que c'est pas tabou, que je peux en parler, etc. Sauf que dans les faits, j'en parle pas. Je n'en parle pas, en fait. J'en parle que si ça vient sur le tapis ou si on touche à ce droit-là. Mais, mais c'est pas... j'en parle pas tellement. Et donc, dans l'année qui a suivi l'avortement, j'ai complètement changé de voie. J'ai lâché je me destinais à la recherche plutôt qu'à l'enseignement. Mais en tout cas, j'ai lâché ça pour venir vraiment au métier du livre.
Ouais.
Et donc, à chaque fois que je commençais une nouvelle carrière, enfin un nouveau boulot, très rapidement, je changeais parce que lui changeait de taf et que c'est quand même lui qui ramenait l'essentiel de l'argent à la maison. Puis ça a évolué comme ça jusqu'au jour où il a...
C'était sujet de conflit, ça ?
C'était sujet de tension.
Ouais.
Et moi, je le vivais mal parce que vraiment, j'ai des convictions féministes depuis longtemps. Que je verbalise mieux maintenant qu'il y a 20 ans, hein, clairement. Mmh. Mais je trouvais ça hyper injuste que notre cheminement soit défini par l'argent. Mmh. Et surtout, je voyais bien à quel point moi, je galérais vachement plus à imposer ma valeur, en fait. Mmh. La valeur de mon travail et tout ça. Donc, je trouvais ça hyper injuste. J'étais très en colère. C'était sujet de nombreuses disputes entre nous. J'avais du mal à verbaliser parce qu'au fond, je pense que c'était l'un des mecs les plus féministes, en tout cas dans les faits, pas forcément dans les idées ou les concepts qu'il pouvait développer, mais dans les faits, il l'était, quoi. Mmh. Tu vois, par rapport aux gars qui pouvaient graviter autour de moi, en fait, dans la réalité, il était foncièrement féministe. Mmh. Enfin, je trouvais que l'essentiel y était. A posteriori, encore une fois. Mais je pense pas que ce soit de sa faute à lui. Je pense que c'est moi qui n'ai pas fait entendre ma voix comme j'aurais pu m'autoriser à le faire.
Okay.
J'ai peut-être besoin simplement de plus d'années, plus de maturité pour que ça arrive, quoi.
Ouais.
Et donc on chemine. Monsieur change de travail, n'en retrouve pas dans sa branche. Et je lui dis, on a vécu à Paris, puis on est retourné dans le sud, etc. Et je lui dis, mais si tu veux chercher à Paris, parce que l'essentiel des offres était à Paris, moi je suis OK pour retourner vivre à Paris. Et nous voilà revenus à Paris. Je trouve un super boulot dans lequel je m'éclate. Et là, mes ovaires se réveillent et me disent meuf. Là, vraiment, j'ai très très envie d'être maman. Et j'étais hyper étonnée parce que je commençais un nouveau job qui me plaisait vachement. On vivait à Paris et moi, je trouvais ça génial d'être à Paris. La vie culturelle, les copains qui sont ici, vraiment, c'était top. Mais vraiment, cette envie qui me dit « Wouhou, non, vraiment, c'est le moment ». Et c'est tellement le moment qu'on tente et que je suis enceinte mais j'ai eu l'impression de sentir en fait la fécondation, de le vivre de manière. Non, mais je sais, c'est mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai senti que c'était le moment. J'ai senti que c'était là et j'ai eu l'impression de vivre le moment où ça se. Enfin.
Incroyable.
Enfin, vraiment. Okay. Voilà. Pour moi, je suis. Et puis j'ai le sentiment d'être devenue maman au début de ma grossesse, en fait.
Ouais.
Tout était très concret, très là. Voilà.
Et, ouais, j'adore, j'avais jamais entendu ça, c'est génial.
Ouais. Et vraiment, tu vois, j'avais une collègue de boulot qui a fait son pot de départ 15 jours. après The Time, quoi. Et tu vois, j'ai pas bu d'alcool. Sûre, je le sentais.
Tu le sentais, quoi.
Je le savais. Bon, c'est un peu facile, hein. Si ça avait pas été le cas, j'aurais oublié ce détail-là, tu vois. Bon, il se trouve que c'était le cas.
T'es tombée enceinte assez rapidement.
Je suis tombée enceinte tout de suite. Je suis tombée enceinte tout de suite.
Lui a été surpris, d'ailleurs, que tu souhaites...
Il était hyper content et il m'a dit qu'il savait, en fait, qu'à un moment, ça viendrait. Et puis, de toute façon, après l'avortement, moi, je lui avais dit que, enfin, tu vois, que ça y est, que j'étais sûre qu'un jour, que j'avais ce désir-là qui s'était éveillé, quoi.
Ok.
Et donc, voilà, nous voilà partis pour les 9 mois de grossesse où il vient avec moi aux échos, à tout ça. Et puis après 9 mois, une petite miss débarque dans nos vies. Et c'est énorme en fait. Toute la, tu vois, amour, c'est. Alors je dis pas que je n'idéalise pas l'amour, et puis il y a plein de formes, il y a plein de manières d'aimer son enfant, d'accueillir son enfant et tout ça. Mais moi, clairement, je me suis sentie en connexion avec elle dès les premiers jours de la grossesse. La rencontre, elle a été. J'ai pas eu l'accouchement rêvé, j'ai eu une grossesse tout à fait normale et j'étais en forme, etc. C'est pas un état que j'ai adoré, voilà. Mais l'accouchement a pas été clairement comme dans les livres, ça a été assez dur. Mais par contre, la rencontre avec elle, ça a été. C'est génial.
Trop bien.
C'est un être humain que je trouve. J'ai vraiment rencontré un autre être humain trop, que j'avais trop envie de connaître. Quoi.
Ouais, ouais.
Et que je découvre tous les jours, et c'est pas évident, mais c'est une super aventure, quoi.
Comment ça se passe, le couple, justement, vous deux, après la naissance?
Eh bien, là, grosse claque, parce que j'ai eu une césarienne, donc j'étais pas en très grande forme le lendemain de la césa. Et première nuit, lui ne dort pas à la maternité, parce que j'ai accouché dans... un équerre, donc c'est pas le truc baba cool où les papas peuvent dormir facilement, etc. Hein, à 19h, le papa, il est... ou 21h, enfin...
C'est dur, ça, quand même,
ouais, c'est super dur.
Franchement.
Clairement, c'est super dur. Surtout quand t'as... une césa, tu peux pas te lever, en fait, la première nuit. Donc, t'es alité, t'as ton bébé qui est à côté.
Et je parle pas des hommes qui pouvaient pas venir, tu sais, pendant le Covid, mais ça, c'était
horrible. Ouais. Puis les nanas qui accouchaient avec les masques.
Franchement.
Là, c'est des gens qui ont des masques aussi, ça devait être affreux.
Il y avait une histoire, j'avais entendu ça, je sais pas si c'est ma sœur qui m'avait dit ça, mais en gros, si t'avais la péridurale, tu mettais un masque, si tu l'avais pas, tu pouvais l'enlever.
Ah ouais.
Je comprends pas.
Ah ouais, non,
franchement, de toute façon, zéro logique pour plein de choses, mais bref, ça devait être
horrible. Ça devait être affreux. Mais... autant l'absence de visite, ça, c'est pas forcément un mal, parce que le côté cocon, c'est plutôt bien. Puis c'est parfois difficile de s'autoriser à se dire non, on serait bien tous les trois, en fait. Mais autant, l'accouchement comme ça. Mais quoi qu'il en soit, à J1 de la naissance, je dors assez peu, comme tu peux l'imaginer, comme je pense. La plupart des jeunes mères. Et donc, à 6h, j'appelle. Je lui dis, t'arrives quand? Il me dit, je sais pas. Il dormait, en fait. Hein, je sais pas pourquoi, il y a un souci. Je dis, non, il n'y a pas de souci. Mais là, ce serait bien que tu viennes prendre le relais. Je suis fatiguée. Il me dit, je vais me doucher. Je vais me... Je dis, non.
Tu viens et c'est tout de suite.
Non, en fait, c'est bien. Il était très, très étonné, en fait. Et donc il est venu, et là ce que j'ai découvert, c'est à la fois l'amour énorme que je portais à ce petit être là qui venait de débouler, qui m'impressionnait beaucoup, et le décalage complet de l'impact de fait d'être parent sur moi et sur lui. Et je trouvais que le décalage était énorme.
Tu le constatais comment?
Par le temps. Déjà, toi, tu, en tant que mère, tu passes 2 mois où tu peux pas aller, enfin un mois et demi où tu peux pas aller bosser. Hein, donc, moi, j'allaitais, ce qui était très chouette et c'était un choix et tout ça. Mais il n'empêche qu'il y avait une sorte de, j'avais l'impression d'être, qu'on attendait de moi et que j'avais pas vraiment le choix d'être toute entièrement tournée vers le bébé, alors que lui, il était déjà tourne, enfin il était resté dans la vie quoi. Oui. Enfin, je sais pas comment dire.
Ouais ouais.
Tu vois, c'est
toi, c'était comme arrêté.
Et moi j'étais sortie, j'étais passée dans un autre monde quoi.
Ouais ouais.
Ouais, moi j'étais passée dans une autre dimension. Et je clairement je ne pouvais pas m'en détacher parce que bah moi j'avais un bébé qui comptait sur moi et
tout le temps quoi.
Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il attendait. Si je demandais pas à ce qu'il fasse des trucs, il n'avait aucune conscience qu'il existait des choses à faire, quoi.
Ouais, chaud.
Et bon, bah encore voilà. C'était, je pense que les choses, elles ont pas mal bougé quand même ces 10 dernières années sur le sujet, mais.
Bah déjà, même au niveau du congé.
Ouais, au niveau du congé, au niveau, ouais, au niveau de du regard aussi. Je pense qu'on questionne beaucoup plus. Donc j'espère. Plein de pères qui se positionnent différemment, qui sont peut-être moins dans l'observation.
Ouais.
Mais voilà. Et j'avais découvert, en tout cas là, l'amour. Je disais que j'étais un peu handicapée de l'amour, enfin que je me sentais un peu handicapée de l'amour. J'ai senti que, en tout cas, du côté de l'amour que je pouvais ressentir vis-à-vis de ma fille, alors là, c'était un amour qui était complètement dingo. Hyper fort, hyper intense, hyper imparfait. Et pour quelqu'un qui est très très contrôle fric, ça, c'est à la fois très effrayant et complètement libérateur. Parce que très vite, j'ai compris que je ferais des grosses boulettes. Que ce serait pas parfait. Mais que vraiment, j'avais très très envie de faire mon max, quoi. Ouais, faire mon max parce qu'elle est trop chouette comme petit être humain, donc ouais, très vite il y a eu ça. Mais en même temps, très vite je me suis rendu compte que en revanche, la relation amoureuse avec le papa, en fait il y a plein de choses qui m'ont sauté aux yeux à ce moment-là. Et notamment, très vite il a voulu quitter Paris parce que la vie à Paris lui convenait plus, il en avait marre, son boulot il en avait marre, élever un enfant à Paris, c'est compliqué, nous on a grandi dans le sud, c'est hyper bien, t'imagines, il faudrait qu'elle soit à côté des grands-parents, là on est loin, etc. Sauf que moi au boulot c'était top.
Toi t'étais super bien à Paris.
Ouais, j'ai eu une promotion alors que j'étais en congé mat, tu vois. Il y avait vraiment, les planètes étaient alignées pour moi, c'était cool, j'avais un gros réseau, ce qu'il n'avait pas lui de son côté, mais j'avais un gros réseau de copains ici. Et je me sentais un peu piégée parce que, bah, en effet, les grands-parents qui étaient dans le sud, eux disaient mais si, mais vous seriez quand même vachement mieux ici, puis on ne la voit pas beaucoup, la petite, on ne vous voit pas. Moi je suis bien en fait ici, quoi. Et je me suis sentie un petit peu toute seule face à tout le monde. Et moi, le seul argument que j'avais, c'était « Ouais, mais moi, en fait... »
Oui, ça compte, finalement.
Mais ça ne faisait pas le poids.
Ouais.
Ça ne faisait clairement pas le poids. Et donc, allez hop, on redescend à 3 cette fois.
T'as réussi à trouver un peu de joie à l'idée de redescendre à un moment où c'était compliqué pour toi ?
Oui, parce que j'avais mes 2 meilleures amies qui étaient dans le sud.
Okay.
Donc ça simplifiait ça. On gagnait des mètres carrés, ça tous les Parisiens comprendront la réjouissance.
Et un peu de soleil.
Voilà, du soleil, des mètres carrés, la proximité avec la famille.
Ouais.
Mais clairement, j'y suis allée vraiment à reculons.
Est-ce que ça veut dire que tu quittais ton job ?
Ouais.
Ouais.
Je quittais mon job. Comme à chaque fois, j'en ai retrouvé tout de suite. Mais à un poste bien inférieur et surtout avec des perspectives quasi nulles, en fait, d'évolution. Parce que dans l'édition dehors de Paris, il n'y a pas des masses de taf. Donc je retournais à la librairie. Et ouais, beaucoup, beaucoup d'amertume en fait. J'ai eu vraiment beaucoup d'amertume.
Il y avait des tensions entre vous à ce
moment-là. Énormément, ouais. énormément. Vraiment énormément. Et ça a ouvert. Il y avait déjà plein de choses qui avaient déjà craquelé. Hein. C'était pas un amour idéal, c'était pas top tous les jours. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vendre. C'était une vraie vie de couple qui dure depuis longtemps, etc. Donc avec plein de petites colères, plein de petits compromis qui viennent rogner un petit peu l'idéal. Mais alors là, vraiment, moi, je me suis dit, en fait, je compte pas vraiment, quoi. Je compte pas vraiment dans l'équation.
Qu'est-ce qui répondait à ça ?
Que c'était mieux, mais quand même que je me rendais compte que c'était quand même mieux pour... pour la petite, pour nous, quand même, les conditions de vie étaient quand même plus chouettes. Et qu'est-ce que tu veux répondre à ça, en fait ? En effet, c'est plus sympa de grandir à côté de la mer. C'est plus sympa de voir tes grands-parents, tes parents plus souvent. Sauf que moi, j'aimais bien ma vie parisienne imparfaite. C'est pas moi qui ai voulu partir, tu vois. Et je pense que j'étais plus assez amoureuse pour me dire « Ouais, mais lui, il est bien. » Du coup, c'est que non, ce que je voyais vraiment, c'était mes renoncements. Et là, il devenait vraiment difficile à encaisser. Donc, je pense que j'ai été un peu pas forcément la meilleure des amoureuses à ce moment-là, clairement. Et puis, je pense qu'aussi, c'était la fin de notre histoire d'amour, en fait, à tous les deux.
Là, t'avais quel âge ? Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ?
Alors là, j'avais dépassé la trentaine. J'avais 32, 33. Et ça faisait 16 ans qu'on était ensemble.
Est-ce que quand tu t'es rendu compte que c'était un peu la fin, ça t'a beaucoup touché ou
ouais.
C'était plutôt...
Okay. Non, ça m'a beaucoup touché et je ne voulais pas lâcher. Je suis passée en mode on va sauver le couple.
Lui s'en rendait compte aussi ?
Oui, lui s'en rendait compte et moi je lui en ai parlé. Okay. Et je me rappelle d'une conversation où je lui ai dit en fait, j'ai l'impression d'être ton accessoire, un accessoire en fait. T'as ta fille, on avait acheté une maison parce qu'il fallait des projets. Moi j'avais besoin qu'on ait des projets pour que ça tienne. Quoi. On avait acheté une maison qu'on avait rénovée, etc. Et en fait, j'ai l'impression d'être l'accessoire. Je suis la femme, en fait. Ouais. Je suis l'accessoire femme.
C'est fort, ça.
Parce qu'il le faut, quoi. Donc, tu vois, t'as un papa, une maman, un enfant, une voiture, la belle voiture qui va vite, la jolie maison qu'on a retapée. Et dans cette équation, je suis la femme. Sauf que, en fait, c'est nul comme rôle. Moi, j'ai envie d'être choisie. D'être aimée, je me sentais pas aimée, etc. Et il m'a dit, mais non, ça va changer, t'as raison, il faut qu'on... Enfin, et c'est vrai, 16 ans de couple, tu vois, il faut qu'on fasse un truc et tout. Sauf que, il s'est passé un an, et qu'un mois après, c'est lui qui m'a annoncé que c'était fini. Okay. Et qu'il fallait que... Enfin, qu'il avait envie d'autre chose, qu'il avait envie d'une autre vie, etc. En fait, il a fait le même constat que j'avais fait l'année d'avant, sauf que lui, il est vraiment passé à l'acte.
Ok.
Sauf que je pense que je n'y serais jamais arrivée. Et c'est là que c'est joyeux. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, c'est celui-là, en fait. C'est d'avoir dit stop, on arrête, c'est fini. Il a plein de raisons, et puis on va arrêter de parler de lui, mais il avait plein de raisons de le faire. Dont notamment la plus belle des raisons, c'est qu'il est tombé amoureux. Ça, je l'ai su après. Parce que quand il m'a dit que c'était fini, c'était pas pour ça, c'était pour d'autres raisons, mais il était tombé amoureux.
Ok. Tu l'as pas su sur le moment ?
Non.
Parce que ça aurait été certainement douloureux pour toi.
Ça aurait été beaucoup plus facile pour moi s'il m'avait dit ça.
Ah, beaucoup plus facile ?
Ah oui.
Ah, ouais.
Ah, mais vraiment. Mais vraiment. Ah oui.
Pourquoi ?
Parce que... Alors ça, c'est... On parle énormément avec mes amis, etc. Digression. Quand je me suis mariée, la veille de mon mariage, j'étais avec ma meilleure amie, on a dormi ensemble et tout ça, c'est vraiment... Voilà. Et elle me dit, tu vas signer pour toute la vie, le symbole est hyper beau. Et moi, je lui dis, mais attends, j'y vais pas en me disant, ça va durer toute la vie. Hein. Ça durera tant que ce sera bien. Et quand ce sera plus bien, ce sera fini et c'est pas grave, quoi. Et elle m'a dit, ah ouais.
Ah ouais, c'est ça le mariage.
Meuf, mais c'est pas ce qu'on dit, quoi.
Ouais, ouais, bah oui.
Sauf que c'est ce qu'on dit avec sa meilleure amie.
Oui.
Et c'est vraiment ce que je pensais, vraiment. Et je le pense toujours,
oui, oui.
En fait. Et donc, quand lui m'a dit c'est fini, parce que plein de raisons vraiment moches que tu peux dire quand tu romps avec quelqu'un, ça m'a fait vachement de mal. Mmh. Alors que s'il m'avait dit j'ai rencontré quelqu'un et je suis hyper amoureux et clairement je peux pas passer à côté de ça, évidemment que j'aurais eu mal à mon ego, quoi. Ouais, évidemment. Ouais. Évidemment que j'aurais pas fait « Ah bah oui, bah okay, ça va.
» Pas de soucis.
Super, elle s'appelle comment? C'est cool, trop bien. On l'invite. Elle fait quoi comme boulot? Bah ouais, mais oui, mais viens. Vous allez récupérer la maison quand même, parce qu'elle est cool, la maison. Non, évidemment pas.
Ouais.
Mais c'est vache... Enfin, du coup, c'est pas mon histoire, en fait. C'est lui. Mmh. C'est la fin de notre histoire à tous les deux. Mais c'est... ça lui appartient à lui. Il va pas se priver d'un truc. Enfin, moi, si j'avais rencontré un mec dont je tombe amoureuse, j'espère bien que je me serais autorisée à vivre, à vivre le truc. Je pense que je ne me serais pas autorisée, mais n'empêche, tu vois. Et donc, voilà la petite Vanessa qui a 36 ans, qui a l'impression que sa vie s'arrête. Et que, ben, qu'à force d'avoir changé de boulot plein de fois, ben, elle a un salaire, comment dire, qui ne fait pas rêver. Et qui se dit, bordel, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété les mêmes erreurs que plein de nanas avant moi. Et je me retrouve nettement moins canon qu'il y a 10 ans. Un peu fauchée. Maman. Putain, ça craint quoi. Ça craint. J'ai un tout petit salaire. Je ne sais même pas si je pourrais avoir un appart avec une chambre pour ma fille. On va avoir une vie de merde. Ma fille va avoir une vie de merde. Ça va être horrible.
Ouais, tout en noir, quoi.
C'est horrible.
Mmh.
Et clairement, les chiffres me donnaient raison.
Oui.
Hein, tu vois, clairement, il aurait pu racheter la maison. Je me disais, putain, t'as rien vu venir, quoi, meuf. Et le patriarcat était chez toi. Donc, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu très, très peur. J'ai eu des amis extraordinaires. Mmh. Mais vraiment. J'ai les poils, mais vraiment, elles ont été fabuleuses en fait, vraiment fabuleuses. J'ai des copines qui m'ont dit, parce que j'étais vraiment faux, enfin vraiment. Alors l'histoire d'amour était finie et vraiment, c'était vraiment, enfin, je me suis rendu compte à ce moment-là que le couple n'était pas fini, mais que par contre moi, mon engagement amoureux était terminé depuis un moment. J'ai pleuré une rupture amoureuse très brève.
Okay.
Par contre, j'ai pleuré sur l'idéal, enfin sur l'illusion, tu vois, le voile qui partait. Et amour, parce que là, mes amis, ma famille ont été juste, mais fabuleux, fabuleuses, quoi.
Trop bien.
Tout le monde a été là, tout le monde a écouté. Je les ai dû les saouler, mais. J'étais en boucle,
ouais,
j'avais super peur.
Ouais.
Tout le monde m'a rassurée, etc. Et en fait, je me souviens très bien à un moment où j'étais au fond du trou et où je me suis dit, non mais stop, en fait. Ok, t'as un salaire de merde, ok, ça va, on a compris. T'as peur de pas réussir à payer ton loyer, on a compris, ça va. Mais t'as deux jambes, t'as deux bras, t'es pas dans la situation la pire possible. Tu vas vous offrir une putain de belle vie et ça va être maintenant. Et c'est toi, en fait. T'as besoin de personne, t'as besoin de toi. Et go, meuf. Arrête de chialer, tu retrousses et t'y vas.
Ça, c'était comme un déclic un jour.
Un déclic de fou. Un soir, chez moi, dans mon lit, on n'avait pas encore vendu la maison, donc on cohabitait. Je recommande pas.
Ouais.
C'est pas terrible.
Ouais, mais c'est toujours une sorte de période de transition. Exactement. Obligatoire.
Sauf que ce soir-là, je me suis dit, en fait, je vais pas suivre la route qui se prépare là. Maintenant, c'est moi qui fais mes choix. Je les fais toute seule. J'arrête de raisonner avec c'est le coparent, c'est le machin. Non, stop, en fait. C'est ta vie et tu prends ta vie en main. Et j'ai fait le choix de quitter le petit village où on était installé, de me prendre un appart dans Montpellier, parce qu'on était à ce moment-là dans la périphérie de Montpellier. Et j'ai commencé à dire non Eh ben non, elle n'ira pas dans la même école. Elle va devoir changer d'école. Mmh. Et là, on m'a dit, mais c'est horrible, tu vas... c'est horrible, pourquoi tu lui fais subir ça? Bah, elle a des parents qui divorcent. Alors, en effet, c'est dur. Mais moi, pour moi, c'est plus facile qu'elle soit dans une école qui soit à 10 minutes à pied de mon travail. Parce que comme ça, j'économiserai des frais de garde. Et puis, pour moi, quand elle, les week-ends, elle sera chez son père, c'est quand même mieux d'être dans Montpellier pour aller faire la fiesta. Et pour aller faire ce qu'une femme de 36 ans va s'autoriser à faire. Je dis non.
Trop bien.
Et je dis oui. En fait, je dis oui. Je me dis oui à moi.
Bah ouais.
Et donc, voilà la Vanessa nouvelle qui trouve un petit appart dans un quartier ultra populaire de Montpellier.
J'ai vécu à Montpellier, c'était cool.
C'est trop bien, Montpellier. Non, mais célibataire à la trentaine à Montpellier, comment te dire? Mais meilleure idée, meilleure idée, meilleur plan du siècle. Et là, les planètes s'alignent. Et ben, en fait, je me fais... Tout ce que je disais tout à l'heure, tu sais, la vingtaine où je me disais peut-être que je passais à côté d'un truc.
Ouais.
Enfin, la vingtaine, c'est vachement mieux à la trentaine, en fait. Mais clairement.
Pourquoi?
Ben parce qu'en fait, t'as moins de choses à te prouver.
Ouais.
T'as moins de petites cases à remplir. C'est autre chose, en fait. Mmh. C'est peut-être... Et puis, moi, j'étais complètement... J'avais plus du tout envie qu'on me dise quoi faire, quel chemin suivre et tout ça. Je me sentais libérée de plein de choses. Vraiment, de plein de choses. Le mariage, j'avais essayé. Bon, ben, ça ne m'avait pas convaincue. La vie de couple, j'avais essayé. Clairement, ça ne m'avait pas convaincue. J'avais une petite fille à élever et c'était trop bien comme aventure. Et en termes d'amour, c'était déjà génial. Je redécouvrais ce qu'était l'amitié et ce que je voulais y mettre, en fait, dans ça. L'énergie que je voulais y consacrer. Et aussi, je me découvrais moi. Et l'énergie que j'avais envie de me consacrer à moi. Et c'était une putain d'aventure trop bien qui commençait. Donc ouais, la vingtaine, c'est mieux à la trentaine. Et la quarantaine, c'est pas mal aussi.
Au niveau de la garde de ta fille, comment ça se passait?
Alors au début, on était en garde partagée.
Ouais.
Ce qui était top, parce que ça me laissait vraiment, vraiment beaucoup de temps pour aller boire des coups. Rencontrer des gens. J'ai repris la danse que j'avais arrêtée depuis trop longtemps. De pleurer un bon coup quand j'avais envie de pleurer un bon coup. Ouais, voilà. C'était des vrais temps où je soufflais. Et les temps où j'étais avec ma fille, j'étais vraiment complètement là pour elle. Vraiment, pleinement.
Parce que tu avais eu du temps aussi pour toi, certainement.
Oui, pour me réparer.
Ouais, ouais.
Et j'étais encore dans une phase où j'avais vraiment besoin de me réparer.
Ouais.
Où je reprenais confiance, où j'étais vraiment en phase de reconquête de moi-même. Et c'était génial.
Et puis c'était la première fois quand même que tu vivais toi pour toi.
Moi pour moi, moi toute seule.
Ouais.
La première fois aussi où j'avais le sentiment de tout... Ça aurait pu être un sentiment... Je pense que c'était un sentiment écrasant avant que ce soit réel. Le sentiment de devoir tout gérer toute seule. Et en fait, je me rendais compte que c'était vachement plus facile. Et message joyeux ça va être surtout des mères, parce qu'on est quand même majoritaire, solo. La charge mentale... Elle s'efface, en fait.
Ça, c'est ouf.
Et ça,
j'ai entendu ça.
Mais c'est dingo. C'est-à-dire que tu peux toujours attendre que quelqu'un d'autre descende la poubelle. Il n'y aura personne qui descendra la poubelle à part toi. Donc, vas-y direct, quoi. N'attends rien. Tu peux toujours attendre que l'autre paye la cantine ou les frais de garde ou prenne rendez-vous chez n'importe quel médecin. Il n'y a que toi qui vas le faire. Tu peux attendre que l'autre te fasse un cadeau. C'est toi qui vas te faire le cadeau.
Ouais.
Et ça, mais c'est ultra libérateur. C'est ultra libérateur. Et c'est un... Moi, je prends le temps de me le dire encore aujourd'hui. Bravo. Bravo à toi, quoi. Bravo, meuf. Et je me remercie aussi. Ça, je suis pas complètement folle, mais, je me dis merci, en fait.
Ouais, ouais.
Je me dis... ça, c'est, tu te dois à toi. C'est toi, quoi. Et ok, des fois tu fais vraiment de la merde. Je dis pas que la, tu vois, les deux jours avant mes règles, je suis comme beaucoup d'entre nous, je me sens nulle, naze, moche, trop laide. Mais il y a toujours un moment où je me dis ouais, mais et ça, c'est moi et c'est moi toute seule.
Ouais.
Et pas des trucs que je fais pour moi, tu vois, des trucs que je fais pour ma ma fille, ma vie, les gens que j'aime. Et c'est trop, trop bien.
À ce moment-là, tu n'avais pas du tout envie de te remettre en couple avec quelqu'un ?
Alors, pas envie de me remettre en couple du tout. Par contre, j'ai traversé cette phase de, qu'on appelait le feu à la culotte avec mes copines. Et la reconquête de moi-même, ça passait aussi par ça. Être dans la séduction, ça, reprendre confiance aussi en moi... me rendre compte que oui, je pouvais plaire. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit, au moment où, où mon mari m'a quittée, j'avais vraiment l'impression d'avoir... d'être redescendue tout en bas de l'échelle de la meuf, quoi. Je me sentais moche. Je me disais, mais il n'y a personne qui me supporterait et qui me supportera. Et moi, je n'ai pas du tout envie de faire des concessions pour qu'on me supporte. Ouais, j'avais l'impression d'être hors jeu, quoi. Et puis, de toute façon, je ne connaissais pas les règles du jeu. Je m'étais mise en couple, j'avais 17 ans. Je ne sais pas du tout comment on drague en soirée. Je ne sais pas du tout où on sort, d'ailleurs, pour draguer.
Ouais.
Et ouais. Donc, je... clairement, les 6 mois qui ont suivi l'annonce de sa décision... Je me suis vue vieille fille bouffée par des chats, quoi. Mmh. Et c'est con parce que j'aime pas les chats, tu vois. Donc, en plus, j'aurais moisi, quoi. En fait, non, pas du tout. Non, en fait, tu sais très bien comment séduire et ça se fait. Mmh. Et il y a Tinder. Et Tinder, ça m'a beaucoup, beaucoup occupée les 6 premiers mois d'emménagement... C'était hyper rigolo. Moi, j'ai vraiment vécu comme un jeu.
Ouais.
J'ai beaucoup échangé avec mes copines célibes aussi à ce moment-là sur les travers, les machins. On parlait vraiment, vraiment beaucoup. Mais ouais, ça a été une vraie récréation et pour le, une vraie à la fois découverte, enfin reconquête, mais aussi découverte parce que clairement, la sexualité, elle est pas la même dans la trentaine que quand tu l'as débuté à 17 ans et que tu as un seul partenaire pendant longtemps. Quoi. Donc, c'était bien. C'était cool.
trop bien d'avoir des copines aussi célibataires avec toi. Enfin, à ce moment-là, je trouve que c'est quelque chose qui est important dans le truc de sortir ensemble, tu vois, de se motiver et tout.
Des copines célibataires, des copines en couple aussi. Des copines qui se marient et moi qui me dis mais c'est complètement absurde, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, quoi. Camille et qui se marie alors que moi j'étais dans un moment où je me dis mais ça ne veut rien dire le mariage, je comprends pas comment tu peux te marier en étant témoin de tout ce qu'il y a autour, quoi. Et mais se marier pourquoi?
Tu te dis ça, toi, par rapport à ton parcours ?
Sur pourquoi est-ce qu'on se marie ?
Ouais.
Ouais, j'ai pas la réponse. En dehors de cocher les cases de la bonne élève, en fait. Je comprends toujours pas.
Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes séparés avec ton ex-mari ?
Ouais.
Ouais. Tu disais que c'était un très beau cadeau
qu'il
t'a fait, dans le sens où toi, tu n'arrivais pas à faire ce geste-là de te séparer.
Ouais. Ah ouais, je serais jamais partie.
Comment tu l'expliques, ça?
Je pense qu'il y a pas mal de lâcheté. Beaucoup de peur et pas mal de lâcheté. Je pense que je voulais pas... Moi, j'ai des parents qui sont mariés depuis très très longtemps. Et c'est pas un mariage idéal où ils s'aiment et... Ah, c'est ma mère qui ne veut pas que j'en parle. C'est un mariage très réussi.
Attends, on n'est pas chez moi parce qu'il y a des travaux. Et là, j'arrive, il y a des travaux.
Ah, et puis moi, j'ai vraiment le syndrome de la bonne élève. Et puis, je pense que j'avais pas. Je pense que j'aurais protégé ma fille aussi. Moi, c'était. Je pense que l'une des choses qui m'a fait le plus peur au moment de l'annonce de la séparation, c'est de me dire je vais passer la moitié. Ouais. Parce qu'au début, c'est une garde partagée. La moitié du temps, je serai sans elle. Et ça, c'était un déchirement. Pour autant, j'aurais jamais dit, tu vas, parce que je sentais aussi, je ne peux pas la priver de son père. J'ai jamais été question de ça, tu vois.
Oui, oui.
Mais vraiment, c'était hyper dur d'imaginer qu'elle allait grandir à mi-temps, que je serais une maman à mi-temps. Et non, en fait, on n'est jamais parents à mi-temps, parce que ton enfant, tu vois, elle a 13 ans, là, elle passe quelques jours avec son père. Waouh, c'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur de la savoir loin, de la savoir inquiète. C'est dur. Et pourtant, elle est grande. On n'est jamais parents à mi-temps, quoi.
Ouais, tu m'étonnes. En ce moment, c'est quoi ta vie sentimentale, romantique, amoureuse?
Alors, je disais que j'avais le sentiment longtemps d'être handicapée de l'amour.
Ouais.
Donc, après la séparation, j'ai vécu différentes histoires. Et au moment du confinement, en 2020, le premier, ouais. Je décide de me séparer de l'homme avec lequel je vivais une histoire depuis quelques temps. Une histoire qui était... où c'était vrai, c'était terrible parce qu'il était extrêmement amoureux,
ouais.
Très démonstratif, ultra valorisant. C'est un gars génial qui m'a fait plein. C'est une relation qui a été très réparatrice pour moi parce qu'il était très aimant et très attentif. Il veut le censure. Pourtant, c'était bien là, il veut aucune censure.
Aïe, 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 il en a marre. Ça, c'est les travaux à Paris, ça.
Le bruit s'est terminé.
C'était la dernière planche.
Le bout est terminé, il me dit « Bon, par contre, il reste une heure de travail. » Je dis « Ok, hein. Bon courage, frérot. »
Bon, enfin, dépêche quand même.
Bah, le bout, c'est terminé ou c'est pas terminé? Merde, à la fin.
Ah, c'est peut-être la fin.
Ouais. Donc, super gars, super
rencontre. Ouais, super gars, super amoureux, super valorisant, super bien. Mais clairement, moi, je sens qu'il y a un total décalage parce que moi, je l'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup.
Ouais, ouais.
Il y a le beaucoup entre
nous. Ouais, ouais.
Et donc, le confinement, il me dit, mais viens, venez vous confiner à la maison avec ta fille, ça va être trop chouette. Et là, je dis, ben non.
Ouais.
Et lui, je dis, ben pourquoi? Et je dis, moi, je vois que non, ça va être chiant, je ne vais pas la priver de ses Playmobil, je vais pas, puis moi, j'ai envie d'être chez moi.
Ouais.
Non, quoi. Et donc, forcément, il ne le prend pas très bien. Et donc, c'est l'occasion pour moi de me dire, attends, meuf, il y a des moments, enfin, t'as mis, je ne sais combien d'années à quitter le précédent, c'est lui qui est parti, ouais. Peut-être que, enfin, sortez au vert un peu, quoi. Donc, donc c'est fini. Et Covid.
Et Covid.
Ouais, je me dis, oh putain, ça y est, les chats se repointent. Je vais vraiment finir vieille fille. Parce que là, il avait tout. Il était cool, il était bien, il était sympa. Et puis non, vraiment, la petite voix en moi me dit, attends, non, tu re-signes pas. Arrête, arrête, quoi. Donc, confinement, Covid, on survit à ça. Je n'apprends pas à faire du pain. Je ne fais pas tout ça. Par contre, on fait des super chorés dans la maison avec ma fille. Voilà. Et puis arrive le printemps. Je rallume un peu Tinder. Je fais 2-3 dates comme ça. Ah oui, c'est vrai que c'est rigolo. Oui, c'est pas mal. Et là, ma fille part en vacances avec son père. Et moi, pour la première fois, je pars en vacances toute seule.
Très bien.
Et waouh, c'est trop bien les vacances toute seule.
T'as fait quoi?
Je suis partie au Pays Basque et j'ai une copine qui m'a prêté sa maison.
Ok.
J'ai nagé dans l'océan, je me suis levée très tôt, je suis allée marcher, j'ai beaucoup lu. Il y avait des amis qui n'étaient pas très loin, donc quand je sentais la solitude un peu trop lourde à porter, j'y allais. Mes parents étaient en vacances en Espagne, je les ai rejoints une journée, enfin... C'était trop bien.
Trop bien.
Je pleurais en écoutant des chansons tristes.
Oui.
je me suis fait un ciné. Franchement, c'était trop bien. Et donc, j'ai rallumé Tinder. Et j'échange un message avec un gars. On échange vraiment... Enfin, ça va assez vite. Sauf que le mec a une playlist longue comme le bras sur son Tinder. Que c'est que des morceaux trop bien. Les morceaux que je connais, que je connais pas. Et je découvre qu'on fait un métier pas très très éloigné, mais lui dans la musique, alors que moi c'est dans le livre. Sauf qu'il est chez des potes, qu'il a pas le temps, et que moi je rappelle que je suis en vacances avec moi-même. et que donc j'ai vraiment pas envie de me polluer avec ça. Donc il me dit ce serait bien qu'on se voit, et je lui dis ouais carrément, quand je rentre on se voit. Mm-hmm. Et puis je coupe Tinder quoi. Et puis je pars en vacances, je rentre, je pars quelques jours avec ma fille au bord de la mer, c'est des vacances trop chouettes. Et il me renvoie un message et je lui dis je rentre demain, je serai solo, voyons-nous. Et on se voit. Et ce gars débarque dans un café, dans un petit bar du centre-ville d'Aix. Et un truc de fou. Une sensation de l'avoir connu, enfin de le connaître en fait. J'avais vraiment l'impression de le connaître depuis toujours. Il s'installe. C'est pas que je trouve super beau, canon, machin. C'est que il correspond à rien de ce que j'imaginais, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. C'est complètement nunuche, le truc. Mais en tout cas, clairement, je m'embrase, quoi.
Ouais.
Et très vite, on se rend compte qu'on a une copine en commun.
Ok.
Et donc, très vite, genre 10 minutes après, j'arrête de faire « Je suis une femme mystérieuse et extrêmement belle », etc. Je tombe le masque, il tombe le masque aussi, et juste on est nous-mêmes, en fait.
Ouais.
Et le feu ne se tarit pas. Et je le trouve... mais c'est pas... j'étais pas complètement... comment dire... tu vois, la langue pendante et tout ça.
Ouais,
pas
ouais.
du tout, quoi. J'avais vraiment l'impression que ce mec, en fait, c'était normal qu'il soit là, en fait. Il était... coup de foudre. Dingo.
Trop bien.
Et réciproque. Et on va chez moi. J'avais plein de codes avec mes Tinder et machin, là. Et très vite, je lui dis, tu vas y aller. En gros, tu vas rentrer chez toi, quoi.
Mm.
Il me dit, oui, si tu veux, mais pourquoi ? Et là, je me dis à moi-même, c'est vrai, pourquoi, en fait ? Parce qu'il est plutôt cool, enfin, je suis plutôt bien, je me sens sécure. Non, en fait, c'est complètement con, reste, en fait. Et puis, le lendemain, moi, j'allais récupérer ma fille, donc je pars, et j'avais rendez-vous avec l'une de mes meilleures copines. Et elle me dit, ça va, et tout ? Oui, ça va. Elle me dit, oui, ça va. Ouais, ça va. Et j'avais un rencard hier. Ah ! Et il y avait les gosses qui étaient juste à côté, tu vois, qui étaient au resto. Et elle voyait ma gueule, je devais scintiller, en fait. Et... Et voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert que non, je n'étais pas handicapée du sentiment ou handicapée de l'amour, et qu'en plus, j'étais même capable de vivre un coup de foudre.
Trop bien.
Et la cerise sur le gâteau, c'est que donc là, on est à la toute fin du mois d'août, et que malheureusement, il va y avoir un deuxième confinement qui va se profiler. Et donc, très rapidement, je vais le présenter à ma fille, sans me dire, putain, c'est risqué quand même, ça fait court. Ça faisait à peine 2 mois qu'on se connaissait. Et la deuxième coup de foudre, c'est eux deux qui ont eu un coup de foudre.
Oh, trop bien.
Ouais, c'était complètement inespéré. Moi, je ne l'avais pas du tout imaginé. Ça faisait même pas partie de ma shortlist du mec idéal, quoi. Sauf que nous deux, on s'est rencontrés. Mais alors, les deux... C'est ils ont eu un coup de foudre tous les deux, quoi.
Génial. Tu l'avais déjà présenté à
elle connaissait le précédent.
Ouais.
Parce que c'était une histoire qui avait duré quand même assez longtemps.
Ouais. N'hésitez pas comme ça, quoi.
Non, on a pas. C'était une relation. Ils avaient une relation très équilibrée, très saine, mais comme une relation vraiment lambda.
Mmh.
Là, ça n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire que ils se kiffent l'un et l'autre. C'est c'est hyper beau, vraiment hyper beau.
Là, vous habitez ensemble, vous êtes ensemble ou pas ?
Non, on n'habite pas ensemble. La question se pose pas mal. Lui, en fait, lui en a très envie et plutôt en demande. Moi, j'avoue que pas tellement. Pas tellement, parce que je vis encore, enfin j'ai quand même encore beaucoup la crainte de l'enfermement.
Ouais.
Et je pense que je dois avoir une sorte de syndrome de Stockholm, parce que je pense que j'ai une vraie capacité à me laisser enfermer. Non. Mais peut-être.
Ouais.
En tout cas, c'est plus un non catégorique, parce qu'en effet, moi, quand on est en vacances ensemble, je trouve ça génial. D'être à 100% ensemble. Avec ma fille, ils s'entendent hyper bien, ça roule, on a des modes de vie qui se combinent très bien. Et en même temps, je crois que j'ai pas du tout envie de renoncer à ma grotte, en fait. À mon nid, je pense que j'ai pas envie de reproduire des tas de trucs qui me plaisent pas dans le fait de vivre ensemble.
T'as le sentiment d'avoir vécu plein de vies niveau amour, ouais.
Ouais, j'ai l'impression d'avoir vécu des choses. Ouais, plein de vies et que sans doute j'en ai encore plein à vivre. Ouais.
Ce serait quoi le message que tu aimerais faire passer à une personne, à une femme qui pourrait se trouver dans la situation dans laquelle tu étais quand ton ex-mari t'a quitté et que tu t'es retrouvée avec ta fille et que tu avais toutes ces peurs?
Bah, je pense que je lui adresserais le même message, en fait. Fais-toi confiance. T'as tout ce qu'il faut en toi pour que ça roule.
Ouais.
Fais-toi confiance, aime-toi très fort et laisse-toi aimer très fort aussi par ceux qui sont là. J'ai l'impression que c'est Victor Suaillon qui avait fait une émission sur ça, sur...
Le cœur sur la table.
C'était un des épisodes du cœur sur la table où on te dit quand t'es célibataire que t'es seule. Alors qu'en réalité, t'as beaucoup plus d'interactions sociales quand t'es célibataire en couple. Et sauf que tu les négliges un peu, en fait, ces relations-là. Parce que c'est ton conjoint, ton compagnon, ta compagne qui... c'est comme si tu lui devais, en fait, ce temps précieux. Et que lui ou elle te devait ce temps précieux. En réalité, je crois que le seul temps précieux, la seule personne à qui tu dois du temps précieux, c'est ton enfant, si t'as un enfant, parce que c'est évident, mais c'est toi-même, en fait. Et donc, ouais, moi, ce que je dirais à la Vanessa d'il y a 8 ans, je répéterai ces mots-là, en fait. Fais-toi confiance. T'as des bras, t'as des jambes, tu vas y arriver, en fait. Et tu vas t'offrir une putain de belle vie. Et ce sera toi qui y arrivera. Et le fait de t'offrir une putain de belle vie, toi, tu la dois qu'à toi. C'est toi qui décides, en fait. C'est toi qui as la main. Et tu dois rien à... tu devras rien à personne d'autre, en fait. Après, c'est pas évident. Et puis, on a toutes nos casseroles, tout ça, mais... ouais. Et puis, d'accueillir toutes les autres formes d'amour, justement, qu'on néglige. Les amis qui sont là. Les gens qui sont... Moi, il y a des gens donc j'aurais imaginé hyper présent qu'ils l'ont pas été. Et c'est pas grave, en fait, parce que t'es pas toujours armé. On disait tout à l'heure, tu reçois des messages, des moments où tu peux pas encaisser, quoi. Et puis d'autres gens qui me semblaient moins proches et qui pourtant ont assuré, assuré de fou. Moi, j'ai une copine, quand j'étais en plein dans le truc, « j'arriverai pas à me loger, c'est horrible », qui m'a dit « mais je te fais un virement, comme ça... tu peux prendre l'appart, t'as ta caution, et puis quand ça va mieux, on verra, quoi. C'est énorme comme cadeau. Vas-y, quoi. T'es pas toute seule, en fait, t'avances pas seule. On est là, on te tient la main. Les parents, j'ai une tante qui m'a envoyé un message pour me dire on est là, quoi. Moi, j'ai eu cette chance inouïe de pas avoir eu besoin de demander. J'ai réussi à me démerder toute seule. Voilà, quoi. J'ai eu cette chance-là. J'ai vécu chichement les premiers mois. C'est pas grave, en fait. C'est pas grave. La petite, elle avait moins de fringues de marque. Moi, j'ai fait très peu de shopping. La vie était pas la même, mais elle était pas moins bien que celle que j'avais en couple. Et c'était ma vie. Et ça fait 8 ans et j'ai un job. Je me suis autorisée, en fait, à m'imposer, à aller postuler à des jobs où je me sentais pas forcément légitime avant, où j'aurais tout vu, tout ce qui me manquait. Et j'y suis allée quand même parce que c'était la ligne en bas de la fiche de paye qui m'attirait, enfin qui était la raison, et ça a marché, quoi. Et quand tu arrêtes de penser tout ce que tu n'es pas et que tu penses à tout ce que tu veux, ça se débloque. En tout cas, dans mon cas, ça s'est débloqué. Mmh. Donc, je dirais go, vas-y, n'aie pas peur, fonce quoi. Fonce. Mmh. Si ce n'est pas le bon mec, si tu n'es pas heureuse avec ce mec-là, ce n'est pas grave en fait. C'est pas grave, et puis, en fait, c'est pas ce qui va. L'amour, il est pas que là. L'amour, il est dans plein d'endroits et auprès de plein de gens. Et c'est pas forcément un mec. Et du coup, il y a plein de super belles surprises.
Mmh, trop bien. Merci beaucoup Vanessa.
Merci beaucoup, Léa.
Merci beaucoup pour la joie.
Tu as répondu.
Enfin, en tout cas pour moi. Et ça me fait beaucoup de bien de t'écouter aussi. Donc merci beaucoup de m'avoir contactée. Et voilà, je sais même plus comment on termine un podcast, moi, n'importe quoi.
Comment ça se finit un podcast ?
Bon, généralement, on se dit au revoir, mais comme on reste ensemble un petit peu, c'est un peu con, quoi. Mais bon, je te dis salut quand même, Vanessa.
Salut,
et je m'en vais.
Je pars couper des planches. C'est fou, c'est fou de parler de soi hyper longtemps comme ça, c'est hyper bizarre.
Merci beaucoup à Vanessa pour son témoignage et merci à vous d'être de retour pour cette nouvelle saison d'amour. Si vous souhaitez participer, toutes les informations sont en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.